Alors, il y a trois choses, d'abord, que je vais repréciser, mais qui reprennent la grande majorité de vos questions. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un disciple et qu'est-ce que c'est qu'un apôtre ? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre ? Et pourquoi je pense qu'il n'est pas très heureux de dire que, par exemple, Marie-Madeleine est une apôtre hein, ou que Marie est disciple ou autre. Quand on étudie, quand on a des historiens comme John Paul Meyer, par exemple, qui a fait un énorme travail sur ces questions-là, il dit, voilà, sur le plan des évangiles, si on écoute les évangiles et si on n'invente pas après, d'accord ? Si on travaille la question des disciples dans les synoptiques et dans Saint Jean, il n'y a pas de femme disciple. Il n'y a que Paul, à un moment donné, qui va parler d'une femme apôtresse. Mais c'est encore un autre contexte. Si on se limite aux évangiles, les disciples sont une catégorie particulière et qui ne concerne de fait que des hommes, parce que dans le contexte, ça ne pouvait être finalement que des hommes. C'est Jésus qui les appelle explicitement à le suivre. D'abord, Jésus appelle explicitement les disciples. D'où la problématique de faire des disciples dans la finale de Matthieu. On ne fabrique pas des disciples, c'est toujours Jésus qui les appelle. Et contrairement aux écoles de disciples grecs ou autres, où c'était les disciples qui choisissaient leur maître, Jésus est un maître très particulier. C'est Jésus qui appelle les disciples. Deux, le disciple est invité à apporter une réponse à Jésus qui va l'obliger à quitter des habitudes et une partie de son quotidien pour entrer dans une forme d'itinérance. Alors, de fait, il y a des femmes qui font ça, mais elles ne sont pas appelées explicitement à être disciples. Donc, ça veut dire qu'on va un peu changer de mode de vie. Et qu'on va rentrer dans une forme d'itinérance et on va changer des habitudes. Le troisième critère que nous donne John Paul Meyer, c'est qu'une suivance doit impérativement traverser l'épreuve jusqu'au bout. Et notamment accéder, accepter et consentir à la passion de Jésus. Alors c'est pour ça qu'on va dire que Marie était au pied de la croix, elle est disciple. Et de fait, il n'y avait pas les disciples au pied de la croix, sauf le disciple bien-aimé selon Jean. Mais le critère de passer par la croix et de l'épreuve, ça fait partie de ce qu'on attend du disciple, ce que Jésus attend du disciple. Le quatrième critère, c'est que la suivance avec Jésus doit impliquer l'adoption d'une attitude d'hospitalité inconditionnel et notamment de partager les repas avec les pécheurs et les impurs. Ça, c'est les critères que les exégètes repèrent dans les quatre évangiles. Voilà. Alors, ça veut dire que parmi le groupe des disciples, on peut imaginer dans les actes, ils parlent d'une centaine ou 120, on ne sait pas très bien. Ce n'était pas un énorme groupe, hein. Il ne faut pas imaginer qu'il y avait une ville qui suivait Jésus, hein. Ce sont des personnages donc, à qui Jésus va transmettre une manière de faire. Et alors là, on voit dans le chapitre 9 et 10 de l'évangile de Luc, hein, il les envoie en mission pour préparer sa venue. Et il leur fait faire un véritable apprentissage. Et donc, il y a une transmission explicite pour le disciple, une responsabilité à adopter cette vie et cette confrontation à notamment l'impureté. Sinon, on n'est pas disciple. Si on n'est pas capable d'aller manger avec les pécheurs, ça fait partie des critères qui vont poser problème. D'ailleurs, dans Saint Jean, vous savez, après le discours sur le pain de vie, il y en a, on nous dit, hein, la plupart partaient et Jésus leur ouvre la porte. Et vous, est-ce que vous allez... Voilà. Et en fait, ils gardent ceux qui restent. Mais Seigneur, on n'a personne d'autre que toi. Donc, chez Jean, c'est des disciples par défaut. Hein. Alors, l'apôtre... L'apôtre, c'est encore une autre, mais c'est un disciple, l'apôtre. Mais il a une autre encore fonction, c'est que lui, il partage le dernier repas, Il se fait laver les pieds par Jésus et ils font partie de ceux qui sont envoyés par le ressuscité. Mais ce n'est pas si net ça. Parce qu'un coup, dans un évangile, on va parler des apôtres, un autre, c'est les disciples. En tout cas, on sait en gros qu'il y a une douzaine d'hommes qui ont charge d'entretenir la mémoire. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et jamais il dit, vous ferez de ce dernier repas une multiplication des pains. Hein ? Par contre, c'est une responsabilité de mémorial. Alors pourquoi ça nous concerne ? Parce que je pense que dans cette assemblée, nous avons ce souhait et peut-être cette vocation à être des disciples. Et moi, je me considère comme une disciple. Parce que j'ai engagé ma vie dans une certaine manière de travailler, et il y a une démarche coûteuse quand on travaille pour l'Église. Et moi, j'ai la prétention d'être disciple. Mais je n'ai pas la prétention que les gens qui viennent me voir, qui veulent me rencontrer pour l'accompagnement spirituel ou autre, ont vocation à être disciples. Et ça me rassure beaucoup de savoir que Jésus leur dirait « Va, rentre chez toi et raconte ce qui t'est arrivé ». Donc ça me libère d'une responsabilité. Par contre, mon job, c'est d'essayer de faire ce que je fais le mieux possible, en essayant de traduire ma compréhension de la relation au Christ. Et les apôtres, je suis désolée, mais là, sur le plan strictement juridique, ce sont les évêques, les successeurs. Les évêques. Alors, bien sûr, on peut dire les apôtres, etc. Oui, mais d'accord, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert de vouloir coller des étiquettes d'apôtres à plein de gens ? Vous voyez, il faut essayer de comprendre que les évangiles, ils nous proposent une multiplicité d'itinéraires qui sont extrêmement réjouissants et libérants. La deuxième chose qu'il faut que je rappelle, c'est la fin, là, avec l'histoire du sacrement de l'ordre et ce que j'ai raconté. Là. J'avais mis un peu le turbo et voilà.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup
bien sûr,
de questions.
Bien sûr, j'ai été trop vite et je m'en excuse. Ça n'est pas dans mon livre, ça, cette dernière partie. Où c'est en filigrane. En fait, il y a un problème avec l'Eucharistie. C'est-à-dire que l'Eucharistie est devenue un sacrement de comptabilité. Elle est devenue un sacrement, ou plutôt la norme de la vie chrétienne. Et c'est terrible pour ce sacrement. C'est terrible pour ce sacrement, parce qu'il faut qu'il fasse du chiffre. On attend de ce sacrement qu'il soit rentable. Un petit peu, je suis... Voilà, mais il y a ça derrière. La messe, c'est... Bon. Quand le baptême, finalement, le baptême est un sacrement très dévalorisé. On a beau dire qu'il y a une égalité baptismale, l'égalité de la dignité, etc. Mais juridiquement, non, ça n'est pas vrai. Nous ne sommes pas égaux sur le plan juridique avec les clercs. Nous n'avons pas... On dit on est prêtre, prophète et roi. On est... tout à fait prête, ça c'est vrai, on va vivre la liturgie, on est tout à fait prophète, on le fait en ce moment, vous voyez, je vous dérange, j'ai une dimension prophétique, mais sur le plan de la royauté, la gouvernance, c'est pas exactement l'égalité, hein. C'est pas exactement, et ça ne le sera probablement jamais. Voilà. Enfin, il faudra du temps. Pourquoi je dis que aujourd'hui, Quand le concile dit la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie, d'abord, ça n'est pas exact. Il y a conflit au sein du concile, parce que dans la constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium dit que la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est la liturgie. Bien. Avec, bien sûr, l'Eucharistie comme sommet, enfin comme accomplissement. Quand Gabriel Ringlet nous dit que les rites sont essentiels, les rites, c'est la liturgie. Qu'est-ce que c'est la liturgie ? C'est un service qu'on rend à l'humanité, c'est un travail, la liturgie. C'est une manière de faire. Mais, du coup, si c'est vraiment la liturgie qui est la source et le sommet de la vie chrétienne, on sait très bien que la liturgie, notamment autour des sept sacrements, nous ne pouvons pas la vivre sans un prêtre. On peut faire, ce que Gabriel nous explique, plein d'autres choses, mais les sept sacrements, s'il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de sacrement. D'accord ? Alors bien sûr, il y a des exceptions, un baptême en cas de, mariage en cas de, d'accord. Mais ça veut dire quand même que l'Eucharistie, va mourir s'il n'y a plus de prêtre. Donc moi, je suis logique. Je considère que la source et le sommet de la vie chrétienne, la colonne vertébrale de la vie chrétienne, c'est peut-être l'Eucharistie, sous réserve qu'il y ait des prêtres. Et donc, la source et le sommet de la vie chrétienne, logiquement, ça n'est pas l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'ordre. C'est par lui que les sept sacrements tiennent. Ça m'agace de vous dire ça, ça me met en colère. Mais c'est une réalité. Et il faut l'admettre. C'est comme ça. Alors pourquoi je dis que je milite pour qu'on ne rentre pas dans le piège du sacrement de l'ordre et du mariage? Pourquoi? Parce que la vie religieuse, c'est pour ça que c'est intéressant d'observer la vie religieuse, les vœux de la vie religieuse ne sont pas un sacrement. Un religieux qui quitte sa communauté, eh bien, il est laïque de toute façon, donc il va pouvoir se marier. Voilà. Les vœux de la vie religieuse ne sont pas un sacrement. C'est comme ça, hein ? Bien. Et nous considérons que les religieux font des vœux très sérieux, que ça engage. D'accord. Et je pense que les vies de vocation, que ce soit pour servir l'Église avec justement la gestion de l'Église, la gouvernance de l'Église et le mariage, qui est une vocation réelle, gagneraient à être encadrées ou instituées par des vœux progressifs, avec un vrai travail sérieux, mais notamment pour les sacrements, la vie des sacrements, ça pourrait être des vœux temporaires qui ne gâcheraient rien, voyez. Et du coup, on pourrait échapper au piège que sont devenus le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, parce qu'on voit bien que les divorcés remariés, le sacrement qui était censé apporter la vie, finalement, devient comme un piège. Mais c'est mon opinion, et je pense que ça n'engage que moi. Bien. L'autre point que je voulais dire aussi, c'est la question de la transmission. On dit, oui, mais alors, comment on transmet? Moi, ma directrice de mémoire, c'est Geneviève Comeau. Je l'ai choisie parce qu'elle n'était pas d'accord avec mon sujet. Elle m'a dit, oui, Valérie, d'accord, votre hypothèse, les non-pratiquants sont une bonne nouvelle. Et quand le Christ reviendra sur Terre, trouvera-t-il la foi? Oui, trouvera-t-il la foi, mais pas forcément des disciples et des apôtres et une église. C'est la foi qui l'attendra. Vos enfants, vos petits-enfants, ne sont pas une feuille blanche. Vous avez transmis plein de choses. Vous leur avez offert le goût de la musique, le goût du théâtre, de la montagne, de la voile, du couscous, de je ne sais pas. Vous n'en savez rien, mais vous leur avez transmis exactement tout ce qu'ils sont. Vous avez planté. Non, mais ne me dites pas que vous n'avez rien transmis. Mais je suis persuadée que dans le package, il y a la foi. Mais ça ne vous appartient pas. Vous avez transmis votre manière de vivre en chrétien. Ils vous ont vu, ils savent que vous êtes ici. C'est un témoignage. Et faites confiance. Parce que moi, quand ma fille s'est mariée avec un garçon qui ne pratique pas, sa grand-mère est venue, elle m'a dit « Non, mais quand même, il ne va pas à la messe. » Je dis « Oui, mais bravo. » Parce que moi, il m'a dit qu'il se mariait pour vous faire plaisir. Ce qui est l'argument scandaleux. Je dis « Vous avez fait le boulot. » Parce que mon gendre qui fait du rugby, qui est agriculteur, je peux vous dire que mettre un costume, aller s'asseoir devant un curé et puis dire les phrases comme ça, il ne le ferait jamais devant ses copains du rugby. Jamais. Et je lui avais dit à Simon, t'as pas honte? Tu vas pas avoir honte? Il me dit, non, parce que je le fais pour Charlotte et pour ma grand-mère. Il était fier de le faire. Je dis à la grand-mère de Simon, mais vous avez fait le boulot. Il a foi en vous. Il estime que c'est beau de le faire pour vous faire plaisir. Eh bien, ça, pour moi, c'est la foi qui sauve. Eh bien, voilà. Voilà.
Il faut s'arrêter.
C'est bon ? Je crois qu'il faut s'arrêter. Donc, la suite au prochain épisode. Merci.